Nom de théologie à Rimont par le père Marie-Dominique Philippe, le 1er juin 1989, ayant pour thème Marie.
Je voudrais maintenant regarder avec vous le terme de la vie de Marie, telle qu'il nous est révélé. Parce qu'en réalité, le terme, c'est-à-dire ce que représenterait le mystère de la dormition de Marie, et le mystère de l'Assomption. Là encore, vous voyez, rien dans l'Écriture. Absolument rien. Alors que lorsque ce paratonnerre disparaît, il est fameux. Il y a dû avoir dans l'Église, quand même, un petit changement. C'est le silence. La naissance de Marie, donc le mystère de l'Immaculée Conception, qui est quelque chose de si grand pour l'humanité, le terme de la vie de Marie, qui est quelque chose de si grand pour l'Église en ses luttes, tout ça demeure complètement dans le silence. Il y a des raisons, c'est évident. Et on doit essayer de comprendre ce que ça signifie pour nous. Comprendre quel est le testament de Marie pour nous, par exemple. C'est une des questions qu'on doit se poser. On aime d'avoir le testament de sa mère. Quand on l'aime, qu'est-ce qu'elle nous dit comme dernière volonté? C'est rien. C'est comme un secret caché. Je crois qu'il faut que nous essayions de comprendre ce qui nous est révélé. À propos de Marie au pied de la croix. Là, c'est révélé. Elle est au pied de la croix. Stabat Mater. C'est Jean. C'est pas Luc. C'est pas Matthieu. C'est pas Marc. C'est Jean. Vous voyez là encore, hein, comme ça a mis longtemps avant d'être révélé. Possible que les premiers chrétiens gardaient ça comme une vérité transmise par mode de tradition, une vérité familiale. Les vérités de famille, on les garde dans un livre de famille. Ce livre de famille, on ne le montre pas à tout le monde. Il est caché. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même Jean à la fin de sa vie qui nous révèle cela. Il fallait sans doute que le début de l'Église reste très très fixé au mystère de Jésus. Source de cette nouvelle famille qui était l'Église. Si je veux comprendre un peu ce mystère de Marie coopérant au mystère de la croix, je vais découvrir là ce que Dieu, dans sa sagesse, a voulu, que non seulement Marie soit mesure, cause exemplaire, mais qu'elle soit aussi source de grâce, cause instrumentale. Ce que je ne peux pas dire directement à partir du mystère de l'Immaculée Conception. Le mystère de l'Immaculée Conception me permet de dire quelle est la mesure. Le mystère de la compassion lié à ce don que Jésus fait de Marie à Jean comme mère me permet de découvrir cette maternité nouvelle de Marie à la croix. Et donc de découvrir comment, pour l'Église, pour les hommes, elle n'est pas seulement cause exemplaire, mesure, mais elle est aussi source de vie immanente à l'Église. Plus présente au cœur de ses enfants que ses enfants ne sont présents à eux-mêmes. C'est ça qui est très étonnant. Et très caché. Si je saisis ces deux extrêmes, voyez, point de départ, l'Immaculée Conception, terme, mystère de compassion. Jésus meurt à partir de la croix. Le mystère de la compassion enveloppe tout le mystère de la mort de Jésus. Et qu'à partir de ce moment-là, Marie continue de croître, mais elle continue de vivre ce sommet du mystère de la croix du Christ. Qui est pour elle sagesse. C'est pour ça que c'est bien l'alpha et l'oméga de la vie de Marie. Marie est présente à la croix. Elle aurait pu très bien être épargnée. Et c'était sans doute le désir naturel du Christ. On aime de partager les joies. On n'aime pas de partager les souffrances. Quand on aime quelqu'un, oui, la loi du partage n'est pas universelle. Partage la joie, on partage le pain, on partage le vin, on ne partage pas la souffrance, humainement parlant. On n'a pas envie. C'est pour ça que quand on souffre, ordinairement on souffre seul. Une bête traquée, elle va seule dans sa tanière. Évidemment, selon l'ordre surnaturel, même la souffrance se partage. Ce qui est tout à fait propre à la grâce. Il y a la grâce chrétienne. Ça fait partie de la sagesse chrétienne. La souffrance est totalement transformée par la grâce chrétienne. Elle demeure souffrance. Tristesse, mais elle est totalement transformée. Puisque c'est à travers elle que la victoire de l'amour va se manifester. Je crois qu'on peut dire, c'est une interprétation, vous donne là. Je crois qu'on peut dire que la prière de Jésus à l'agonie, cette prière si mystérieuse, « Père, que ce calice s'éloigne, non ma volonté mais la tienne. » C'est une prière révélée, donc est pour nous. Qu'est-ce que ça signifie dans le cœur de Jésus, ce mystère de l'agonie, tel que Saint Luc nous le rapporte? Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est Jésus qui demande que le mystère de la croix soit écarté. Parce que ça, c'est naturel. Et la révélation ne nous révèle pas ce qui est naturel. Elle nous révèle toujours ce qui est divin. Toujours. Surtout dans ce moment particulièrement important d'agonie. Que Jésus ait eu peur de la mort dans son appétit naturel, dans sa volonté naturelle. Oui. Parce que la grâce ne supprime pas la nature. Mais cette peur a été tout de suite dépassée par la charité. De sorte que je ne crois pas qu'on puisse interpréter l'agonie de cette manière, la prière de l'agonie de cette façon. Beaucoup l'ont interprété comme ça. Mais moi, ça ne me satisfait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre interprétation ? Jésus parle de la coupe, du reste, que cette coupe s'éloigne. Il ne dit pas que cette mort s'éloigne, la coupe. Alors, si vous regardez dans l'Apocalypse, le langage symbolique de la coupe exprime l'aspect existentiel du mal. Donc, la manière dont Jésus va vivre le mystère de la croix, c'est ça la coupe. Est-ce que la manière dont Jésus doit vivre le mystère de la croix, qu'il connaît par sa science infuse, qu'est-ce que c'est ? Dans le regard du Christ à l'agonie. Il y a toutes les morts présentes à la croix. Toutes. Morts physiques, morts intérieures du cœur, dans l'amour, la trahison. Morts sociales, politiques, religieuses. Toutes les morts sont présentes. Elles sont présentes dans leur paroxysme, selon un mode ultime. Mais il y a quelque chose qui est plus lourd que tout le reste. C'est que Jésus est source de souffrance pour sa mère. Au point de vue profond, au point de vue humain et divin, c'est ce qu'il y a de plus dur à accepter, d'être source de souffrance pour ceux qu'on aime. Mais quand on doit exercer l'autorité, on doit de temps en temps être source de souffrance. Il n'y a que Dieu qui peut faire toujours miséricorde. Il n'y a que Dieu. C'est dit dans une des oraisons, en s'adressant à Dieu. Nous ne pouvons pas nous toujours faire miséricorde. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a l'autorité, on est responsable du bien commun. Et il y a là un devoir de justice. Et ce devoir de justice, on doit l'accomplir. miséricorde, ce sont des relations personnelles. La justice peut regarder le bien commun. Vous ne pouvez pas faire la miséricorde à l'égard du bien commun. Ce n'est pas une personne. Vous faites la miséricorde toujours à l'égard d'une personne. À l'égard du bien commun, vous devez sauvegarder le bien commun. En justice. Et s'il le faut, prendre des chiens méchants. C'est pas très charitable hein, d'avoir des chiens méchants pour mordre les mollets des voleurs. Et donc la charité chrétienne demanderait qu'on n'ait plus de chiens méchants. Pourtant, on a des chiens méchants de temps en temps. Et des saintes religieuses ont des chiens méchants quelquefois quand elles vivent seules dans un monastère et qu'elles ont besoin d'avoir quand même quelqu'un qui s'abrite un peu. Je me souviens, c'était une question qui m'était posée, une bonne religieuse dominicaine. Il y avait eu des voleurs la nuit. Comme c'était un pensionnat, elle avait la garde d'enfants jeunes. Elles ont appelé la gendarmerie, mais la gendarmerie leur a dit, mais écoutez, on ne pourra pas chaque fois venir. Ayez des chiens méchants. Alors les supérieurs me disent que j'ai le droit, au point de vue de la charité chrétienne, d'avoir des chiens méchants. Et de faire que ces chiens, on le sait, attaqueront. C'est de la violence. C'est pas pacifique. Je dis, vous avez la responsabilité de tous ces petits-enfants. Vous avez la responsabilité de vos soeurs. Ayez des chiens méchants. Des chiens méchants. Méchants pour l'extérieur et très bons pour l'intérieur. Ad intra. Vous savez, les chiens des Pyrénées sont comme ça. Ces chiens blancs, merveilleux. Ils sont tout, tout pour les enfants. Mais merveilleux. Les enfants peuvent leur tuer leurs rêves, tuer la langue. Bouge pas, ils ne bronchent pas. Tire le poil, ils ne bronchent pas. Ils peuvent s'asseoir dessus. Et vis-à-vis de l'extérieur, ils sont très méchants. Alors ils ont eu des chiens. Être l'occasion de souffrance pour quelqu'un qu'on aime, là c'est les voleurs, mais quelqu'un qu'on aime, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. C'est que tu vas avoir beaucoup de miséricorde pour les supérieurs. Pour les parents, c'est comme ça aussi. Au point de vue de la justice, il y a une certaine justice. Quand les frères aînés, quand les fils aînés commencent à prendre du large et qu'il y a encore des petits cadets, on doit se faire attention. Quand, dans une famille profondément chrétienne, il y a des divorces qu'on ne peut absolument pas accepter, qu'est-ce qu'on peut faire? Accepter celle qui vient en plus et qui scandalise tout le monde. La justice. C'est des problèmes qui se posent tout le temps aujourd'hui. Hein. Là, prendre comme principe, ah, il faut être miséricordieux. Non. Vous ne pouvez pas être toujours miséricordieux. Dès que vous avez la responsabilité d'une communauté, une famille, vous ne pouvez pas. Un prieur ne peut pas être toujours miséricordieux. Un curé ne peut pas être toujours miséricordieux. Essayer, pas toujours. Dès qu'on est en face d'un bien commun qui vous est soumis. La quête du dimanche, elle n'appartient pas au curé, elle appartient au bien commun. Et si on la vole, il n'a pas le droit en disant mais rend quelqu'un au moins qui pourra prendre un bon repas. Avec, il n'a pas le droit. Et Jésus, c'est qu'il va être source de souffrance pour sa mère. Je crois que que c'est cela qui est le plus terrible pour le Christ. Parce que c'est gratuite. Jésus sait qu'il peut accomplir parfaitement, seul, le mystère de la rédemption. Qu'il peut satisfaire pleinement jusqu'au bout. Il accepte d'être seul. Je me demande hein, si cette prière de l'agonie, ce n'est pas cela que Jésus demande. Père, que ce calice s'éloigne. Et le calice, c'est Marie au pied de la croix. C'est Marie qui est broyée par la croix du Christ. Que ce calice s'éloigne. Et non pas ma volonté, mais la tienne. Vous voyez, Jésus sait qu'il peut sauver tous les hommes seul, qu'il n'a pas besoin du mystère de la compassion. C'est de la surabondance. Et donc, on peut le rouler. Et c'est ce qu'il demande. Dans le Père veut que Marie saute au pied de la croix. Alors, essayons de découvrir tout ce que cela représente dans une théologie de l'économie divine. Parce que c'est quand même très important, la croix est pour nous sagesse. Sagesse de vie. Et si la croix est sagesse de vie, Marie qui vit le mystère de la croix dans son mystère de compassion nous aide à comprendre cette sagesse de vie. Si Marie n'avait pas vécu le mystère de la croix, si la prière de l'agonie avait été exaucée, Marie aurait été uniquement celle qui reçoit tout du Christ, comme un enfant qui reçoit toute sa mère. Mais pour que Marie soit épouse à la croix, il faut qu'elle vive ce que Jésus vit. L'épouse, c'est celle vit pleinement l'œuvre de l'époux et qu'il l'accomplit en elle. L'épouse, c'est celle qui coopère de la manière la plus intime qui soit avec l'époux, portant ses secrets, étant là pour l'aider, le soutenir, à aller jusqu'au bout, dans l'amour. Vous voyez, autre chose, être un enfant qui reçoit tout. Autre chose, être un ami qui coopère. Le mystère de l'Immaculée Conception, c'est le mystère de l'enfant qui reçoit tout, gratuitement. C'est merveilleux. Et c'est un mystère de pure gratuité où Marie, comme petit enfant de Dieu, reçoit tout. Le mystère de la compassion, c'est Marie qui est l'amie de Jésus crucifié, qui est l'épouse de Jésus crucifié. C'est le mystère de la nouvelle alliance qui se réalise dans le corps et le sang du Christ. Et dans ce mystère de la nouvelle alliance, on est en présence du mystère de l'époux et de l'épouse. Et ce mystère de la nouvelle alliance prend toute sa force à la croix. Jésus et Marie et Jean. Vous avez là l'icône du mystère de la nouvelle alliance. Jésus, Marie, Jean. les premiers résultats, si j'ose dire, les premiers fruits du mystère de la rédemption. Jésus donne tout à Marie et Marie donne tout à Jésus pour que ensemble il y ait Jean. Jean existait sans Marie, mais pour que Jean existe avec Marie. Et donc dans une nouvelle plénitude. Il faut souvent regarder cette icône merveilleuse. Vous comprenez que pour nous, c'est très important. C'est notre icône à laquelle on devra tout le temps venir dans la communauté Saint-Jean. Jésus, Marie, Jean. Et comprendre cela tel que la sagesse de Dieu l'a voulu, tel que Saint-Jean nous le montre dans son évangile. Et c'est comme ça que ça s'achève. Ça n'exclut personne, mais ça inclut tout le monde. C'est ça qui est très étonnant. Alors, essayons de voir comment se réalise cette nouvelle alliance. Marie coopère à Jésus. Autrement dit, elle vit le mystère de la croix de la manière la plus fervente, la plus ardente, la plus généreuse qui soit. Elle vit ce mystère dans sa foi, dans son espérance et dans son amour. Alors que Jésus vit le mystère de la croix dans un amour tout à fait pur. Alors c'est ici où on est obligé de faire appel à certaines données théologiques de saint Thomas et d'autres, hein, parce que pratiquement tous les théologiens ont affirmé ça. Jusqu'à la fin du siècle précédent. Je ne sais pas ce que sera le 20e siècle dans la lumière de Dieu, au point de vue théologique. Il y aura beaucoup de brouillard. Il y aura beaucoup de cyclones. Il y aura beaucoup de tremblements de terre. C'est vrai, quand on regarde. Et je dirais, surtout la seconde partie du 20e siècle. De voir tout ce qu'il y a eu comme surcharge. Alors je m'explique ici. Pour saint Thomas, le mystère de l'incarnation, je vous le disais ce matin, implique que dans l'âme du Christ, il y a la plénitude de grâce. Autrement dit, la grâce sanctifiante. Dans l'âme du Christ et l'effet propre du mystère de l'union hypostatique. Et par le fait même, Jésus reçoit du Verbe de Dieu la plus grande grâce qu'une créature peut recevoir. Et saint Thomas donne un petit exemple très simple. Plus on est proche d'une source de chaleur, plus on reçoit. C'est ça très bien l'hiver. Quand il fait très froid et qu'il y a un beau feu de cheminée, si on est très loin, si on se met très loin, on ne reçoit plus beaucoup de chaleur. Si on s'approche, qu'on se met tout proche, on se réchauffe très vite. Cette application. L'humanité sainte de Christ est toute proche par le mystère de l'union hypostatique de la grâce, la source de la grâce, la très sainte Trinité. Si on est proche du Verbe, on est proche du Père, de l'Esprit Saint. et l'humanité sainte du Christ ne peut pas être plus proche de cette source de grâce qui est le Verbe de Dieu que dans le mystère de l'union hypostatique. Saint Augustin là une affirmation extraordinaire. Il dit, cette unité qui existe dans le Christ, dans la personne du Verbe, est la plus grande unité qui puisse exister. C'est très très beau ça. C'est Saint Augustin qui dit ça. Saint Thomas le reprend. Parce que c'est une unité qui se fait dans la personne du Verbe de Dieu. Donc c'est la plus grande unité ajoutée parmi des réalités qui ne sont plus Dieu. Parce que la plus grande unité, c'est l'unité dans la très sainte Trinité. Mais dès que je quitte le mystère de la très sainte Trinité, alors l'humanité sainte du Christ, ce n'est plus la très sainte Trinité. Il ne peut pas y avoir une unité plus grande entre l'humanité sainte du Christ et le Verbe de Dieu. Et la nature divine dans le Verbe de Dieu. Parce que c'est une unité personnelle. Ça va très loin, ça. C'est très très fort. Donc cette unité ne peut pas grandir. Elle est indivisible. Comme le Verbe de Dieu. Le fait même, l'humanité sainte du Christ reçoit dès le premier instant de la conception une plénitude de grâce qui provient de ce mystère de l'union hypostatique. Une plénitude de grâce qui, comme telle, ne peut pas grandir. Puisque cette unité ne peut pas grandir. C'est ça le raisonnement de saint Thomas. La plénitude de grâce qui est dans l'âme du Christ est parfaite. Elle est quasi infinie. Le quasi de saint Thomas. Quasi infinie. Elle ne peut pas être infinie tout court, puisque elle provient de la source qui est le Verbe de Dieu. Donc elle est un fruit, elle est un effet, donc elle est relative à sa source, donc elle ne peut pas être infinie, absolue. Elle est quasi. Quand saint Thomas dit quasi, ça veut dire que pour nous, elle est infinie. Je ne peux rien ajouter à la plénitude de grâce du Christ. Parce que cette plénitude provient du mystère de l'union hypostatique. C'est pour ça que la raison de grâce dans l'humanité sainte du Christ, dans son âme, est la plus parfaite qui puisse exister. Il faut aller jusque-là, si on veut comprendre ce que je vais dire maintenant. Puisque cette grâce, cette plénitude de grâce, est parfaite, elle atteint tout de suite son terme. N'est parfait que ce qui atteint son terme. Et le terme de la grâce, c'est la vision béatifique. Et c'est pour ça que saint Thomas ajoute que dans l'âme du Christ, l'âme créée de Jésus, dans son intelligence, il y a tout de suite, dès le premier instant de sa conception, la vision béatifique. Et par le fait même, cette plénitude de grâce ne supporte pas le mystère de la foi, le mystère de l'espérance, qui implique des limites dans l'ordre de la grâce. Il faut donc dire avec saint Thomas que Jésus, dans son âme humaine, au plus intime de son intelligence et de sa volonté, et dans la vision béatifique. Mais on est loin aujourd'hui d'affirmer ça. regarde avant tout dans le Christ l'homme, et non plus le Fils de Dieu, et non plus le contemplatif. Alors que Jésus est le contemplatif par excellence. Il est le Fils de Dieu, bien-aimé du Père. Une fois que vous acceptez ça, vous pouvez donc dire qu'au plus intime de l'âme du Christ, il y a quelque chose qui échappe en raison de sa perfection à l'holocauste de la croix. Ce qui est dans la vision béatifique ne peut pas connaître les souffrances de l'holocauste de la croix. Par le fait même, l'intelligence du Christ, qui est tout irradiée de la vision béatifique, ne peut pas connaître le mystère de la croix. Jésus, au plus intime de sa vie divine, quand il vit le mystère de la croix, ne peut pas offrir au Père toute sa nature humaine, quelque chose qui échappe, les sommets de son intelligence et de son cœur, pour que la nature humaine soit totalement offerte, pour que tout soit offert, que tout soit brûlé, holocauste. Holocausto, hein, un mot grec, pour que tout soit brûlé. Il est nécessaire que Marie soit unie à ce sacrifice pour que elle vive ce mystère de la croix dans sa foi, dans son espérance et dans sa charité. Et c'est peut-être ça, vivre le mystère de la croix comme épouse. C'est l'épouse apporte quelque chose que l'époux ne peut pas avoir. Et dans ce cas, l'épouse apporte l'offrande de son intelligence qui étant soumise à la foi peut-être totalement offerte à Dieu. C'est le propre du mystère de la foi. La foi permet à notre intelligence d'être totalement offerte en étant victime. Si je vis le mystère de la foi dans toute sa force, dans toute sa plénitude, mon intelligence est comme immolée. Elle est offerte à Dieu. Voyez, l'adhésion de foi se fait dans l'obscurité. Pour l'intelligence, accepter quelque chose dans l'obscurité, c'est une mort. Parce que l'intelligence veut la clarté, veut l'évidence. Et la foi me fait accepter quelque chose que je ne comprends pas. Non seulement que je ne comprends pas, mais qui est dans l'obscurité. Voyez, comment la foi va pouvoir s'étendre dans l'ordre pratique, jusque dans l'obéissance. Une foi pratique, c'est une foi qui se réalise dans l'obéissance. Où j'obéis sans rien comprendre, je peux faire ça qu'à Dieu. Parce que quand j'obéis en comprenant, je dis ce qu'il est intelligent, le supérieur, je comprendrai bien. J'agirai de la même façon. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de mérite d'obéissance. Tandis que quand le supérieur commande quelque chose de la parfaite et que l'inférieur n'y comprend rien, Et même, il est comme un vieil âne qui rue. Ce qu'il est bête. Se dire ça, c'est affolant qu'il réfléchisse 3 minutes. Il verra que ça peut pas être comme ça. C'est très vrai. C'est des choses qui arrivent. Dans la vie chrétienne, on obéit à Dieu par la foi et directement à Dieu par la foi. Et donc notre intelligence est offerte en holocauste d'amour. C'est ce qui s'est passé pour Marie en holocauste d'amour. Vous allez tout de suite saisir. Marie est au pied de la croix. Jésus, crucifié, est présent devant elle, le face-à-face de la croix. Et Marie vit tout le mystère de la croix dans la totale obscurité de la foi et dans la totale pauvreté de l'espérance. Marie, au pied de la croix, vit de l'Annonciation, du message de l'ange. Le message de l'ange est resté toujours actuel pour Marie. C'est pas quelque chose qu'elle a entendu avant, c'est quelque chose d'actuel. Quand on a le privilège de voir des personnes qui ont eu de vraies apparitions, ce qu'il y a de plus frappant, c'est que ce qu'elles ont entendu 30 ans avant reste actuel. Oui, c'est là où on distingue la véritable apparition de l'aspect psychologique. L'aspect psychologique est dans le temps. L'action directe de Dieu sur nous touche l'éternité. Ça, c'est très très significatif. Pas de savoir si dans l'œil on trouve l'image. Non, ça c'est très secondaire. C'est très très secondaire. C'est pas ça l'intéressant. L'intéressant c'est de voir l'action directe de l'Esprit Saint. De la toucher. On peut laisser ça faire, hein, de vous opposer. Vous voyez des gens qui veulent à tout produire, c'est très désagréable. De vouloir photographier les rétines de la petite voyante. Est-ce qu'elle voit Marie? Est-ce que Marie est là présente? Ou est-ce que c'est purement d'imaginaire? C'est gênant, hein, pour la voyante. Il faut quand même respecter son dialogue secret avec Marie. Marie vit de l'Annonciation à la croix. Il régnera sur la maison de David éternellement. Il doit régner sur la maison de David. Et voilà qu'il est crucifié sur le bois. Et voilà qu'il est rejeté de son peuple comme un criminel. La réalisation de la prophétie de l'ange Gabriel n'a pas l'air du tout de se réaliser. C'est quasi contradictoire. En apparence, c'est contradictoire. Et vous savez bien, quand on est en présence d'une contradiction, qu'est-ce qu'on fait? On rejette immédiatement une des propositions pour s'attacher uniquement à l'une. Marie aurait pu discuter à la croix. Méditer. L'ange m'a dit ça. Et voilà le résultat. C'est terrible. Si Marie s'était mise à discuter, ou elle aurait considéré que les paroles de l'ange, elle les avait mal comprises. Elle avait 33 ans. elles avaient mal comprise. Et donc, tout dégringolait. Ou, elles n'auraient pas voulu regarder la croix. Ça, non, je ne veux pas regarder ça. Vous savez, quand on souffre de trop, quelquefois on ne veut pas regarder le réel qui est en face de nous. On se réfugie dans un rêve. On se réfugie dans l'imaginaire. Parce qu'on est trop blessé. Dans notre vulnérabilité la plus grande. Marie garde dans son cœur les paroles de l'ange. Marie est présente à la croix. Elle dépasse cette apparence de contradiction pour n'adhérer qu'à la volonté du Père. Ça, c'est la grande victoire de la foi, d'une foi vivante, transformée par l'amour. Et là, on touche l'holocauste de l'intelligence qui accepte de ne pas comprendre, de ne rien rejeter et d'adhérer à la volonté du Père. Si tel est son plaisir, son bon plaisir. Je crois qu'il faut entrer dans cette béatitude de foi de Marie. Et comprendre qu'à partir de ce moment, elle est liée à Jésus crucifié. D'une façon telle, dans l'amour, qu'elle ne fait plus qu'un avec lui. Et par le fait même, tout ce que Jésus réclame, on le reçoit. Regardez les apparentes contradictions, adhérant uniquement au mystère d'amour. Alors l'intelligence est complètement offerte. Elle se tait. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. L'intelligence de Marie a connu une mort à la croix. Voyez le complément dans l'holocauste d'amour. Marie peut présenter au Père quelque chose de très profond de l'âme humaine, de l'intelligence humaine. Quelque chose de très profond, quelque chose de très radical. Elle peut le présenter. Jésus ne pourra pas le présenter. Puisqu'il est dans la vision béatifique. Donc, elle ajoute quelque chose, elle complète. Ça n'ajoute rien du côté de l'intensité de l'amour, puisque tout vient du Christ. Et donc, le sacrifice du Christ suffit à tout. Mais du côté de l'extension, c'est différent. Marie ajoute quelque chose. Elle permet à l'holocauste du Christ de s'étendre davantage dans son cœur. En elle. Elle veut tout prendre. Je peux dire la même chose par rapport à l'espérance. L'espérance permet d'offrir à Dieu les désirs les plus profonds de notre cœur. Et de faire que ces désirs les plus profonds de notre cœur soient vraiment offerts et donnés. Et Marie, en faisant ça, offre à Dieu quelque chose que Jésus ne peut pas offrir. Vous voyez la complémentarité. Réfléchissez-y. Puis si vous avez des questions, notez-les. On les regardera demain. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit.